Chapitre 39, le tombeau de Lavallière. Ce soir-là donc, enivrés par le parfum des roses qui les enveloppait comme ce nuage embaumé où Virgile cache ses déesses sous le ciel lumineux dont les étoiles semblaient amoureusement se poursuivre comme au temps d'Apollon et de Daphné, dans cette atmosphère rafraîchie par la pluie de la journée, en un mot, par cette première nuit de printemps, calme, sereine, embaumée, les cœurs des deux jeunes gens s'entr'ouvrirent à l'amour, comme s'entr'ouvrait à la rosée fécondante du soir le calice des fleurs. En entendant sonner minuit, en comptant les vibrations sonores et successives jusqu'à 12, ils tressaillirent, jetèrent un cri, échangèrent un rapide bonsoir et remontèrent, tremblants comme des coupables. Arrivés au second étage, ils s'arrêtèrent. La fenêtre du carré était ouverte, la lune éclairait, silencieuse et mélancolique, le tombeau entouré de roses. « Qu'est-ce donc que ce tombeau ?» demanda Carmélite en s'accoudant sur l'appui de la fenêtre. « C'est le tombeau de Mademoiselle de Lavallière, » répondit le jeune homme en s'accoudant auprès d'elle et à côté d'elle, dans l'étroit espace ménagé par l'ouverture de la fenêtre. « Comment donc le tombeau de Mademoiselle de Lavallière se trouve-t-il ici ?» demanda Carmélite. « Tout ce terrain que vous voyez là, » répondit Colomban, « formait autrefois le jardin d'un couvent appartenant à l'ordre religieux dont vous portez le nom poétique. Au milieu de ce jardin était une église bâtie, selon les vieilles légendes lutétiennes, sur les ruines d'un temple de Cérès. » On ne connaît pas l'époque précise de la fondation de cette chapelle, on croit seulement qu'elle date du règne de Robert le Pieux. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès la fin du Xe siècle, elle était occupée par des moines bénédictins de l'abbaye de Marmoutier, qui la possédèrent comme prieuré sous l'invocation de Notre-Dame-des-Champs jusqu'en l'année 1604, où elle fut cédée aux religieuses carmélites de la réforme de Sainte-Thérèse. Catherine d'Orléans, duchesse de Longueville, poussée par quelques dévots qui lui offraient le titre de fondatrice, obtint du roi, grâce à l'appui de Marie de Médicis, tous les pouvoirs nécessaires à la création de cet établissement. Avec l'autorisation du roi Henri IV et l'approbation du pape Clément VIII, on fit venir d'Avila à Paris 6 religieuses carmélites qui avaient été formées par la séraphique sainte Thérèse de Sépède. Ces 6 religieuses furent les premières de leur ordre en France. Elles habitèrent le couvent qui était là et qui n'existe plus. Elles prièrent, chantèrent, moururent dans cette église dont il ne reste plus que le tombeau dont vous m'avez demandé le nom. « Oh, que c'est curieux !» dit Carmélite dans l'étonnement que lui causait la révélation de ces mystères de la nature éternelle et de l'éphémère passé. « Et sait-on comment s'appelaient ces 6 jeunes filles ?» Je le sais, moi, dit en souriant le jeune Breton, car je suis l'homme des légendes. Elle s'appelait Anne de Saint-Barthélemy, Isabelle des Anges, Béatrix de la Conception, Isabelle de Saint-Paul et Éléonore de Saint-Bernard. La duchesse de Longueville alla à leur rencontre et voulut que leur entrée dans le prieuré fût célébrée par une fête. Tout cela n'était peut-être pas aussi curieux que le disait Carmélite, aussi intéressant que l'affirmait Colomban, mais les pauvres enfants se mentaient l'un à l'autre, ne demandant pas mieux que de trouver un prétexte pour ne pas se quitter. Tout était bon dans ce sens. La conversation mystique continua donc. « Oh, ce que j'aurais voulu voir une fête de ce temps-là, » dit Carmélite. « Eh bien, mademoiselle, écoutez, » dit Colomban, « restez où vous êtes, fermez les yeux, substituez l'imagination à la vue. Figurez-vous que vous avez là, à votre gauche, un sombre couvent aux hautes murailles, là, en face de vous, l'église, et... attendez. » Le jeune homme rentra chez lui. « Où allez-vous ? » demanda Carmélite. « Chercher un livre, » lui cria le jeune homme de l'intérieur de son appartement. Et 5 secondes après, il revint tenant un livre à la main. « Maintenant, » dit-il, « fermez-vous les yeux ? » « Ils sont fermés. » « Voyez-vous le couvent à gauche ? » ?»« Oui. » « Voyez-vous l'église en face de vous ? » ?»« Oui. » Colomban ouvrit le livre. La lune brillait, radieuse à son zénith, et jetait sur toute cette nature, calme et silencieuse, une lumière si pure que Colomban pouvait lire comme en plein jour. Il lut. « Le mercredi 24 août 1605, jour de Saint-Barthélemy, fut faite à Paris une nouvelle et solennelle procession des sœurs carmélites, qui, ce jour-là, prenaient possession de leur maison. Le peuple y accourut en grande foule, comme pour gagner les pardons. Elles marchaient en bel et bon ordre, et étaient conduites par le docteur Duval, qui leur servait de bedeau, ayant le bâton à la main, et qui avait du tout la ressemblance d'un loup-garou. Mais, comme le malheur voulut, ce beau et saint mystère fut troublé et interrompu par deux violons qui commencèrent à sonner une bergamasque, ce qui écarta ces pauvres gens et les fit retirer à grands pas, tout effarouchés, avec le loup-garou leur conducteur, dans leur église, où, étant parvenus comme un lieu de franchise et de sûreté, commencèrent à chanter le Te Deum Laudamus. « Avez-vous vu ?» demanda Colomban. « Oui, mais autre chose que ce que je comptais voir, » répondit en souriant Carmélite. « On ne voit pas toujours ce que l'on croit voir quand on a les yeux ouverts, » dit Colomban, « à plus forte raison quand on les a fermés. » Et ce fut dans ce couvent que se retira Mademoiselle de la Vallière, dans ce couvent même où elle passa 36 ans au milieu des exercices continuels d'une piété de plus en plus édifiante et où elle mourut le 6 juin de l'année 1710. « Et alors c'est là, dans ce tombeau, » demanda la jeune fille, « que repose le corps de la pauvre duchesse ?»« Ce serait beaucoup dire que d'affirmer cela, » répondit Colomban. « Elle a donc été exhumée ?» En 1790, un décret de l'Assemblée nationale supprima le couvent. On démolit l'église. Qui sait ce que devint le corps de la pauvre pécheresse que Lebrun avait représenté sous les traits de la Madeleine? Et cependant, comme je vous l'ai dit, à vous qui, un siècle et demi après sa mort, vous inquiétez d'elle, la tradition prétend qu'il a été épargné et qu'il repose toujours dans le caveau au-dessous de cette petite chapelle. Et, demanda Carmélite avec l'hésitation de la curiosité qui craint d'être déçue, on ne peut pas y entrer sans doute. « Je vous demande pardon, mademoiselle, » répondit Colomban, « on fait plus que d'y entrer, on y demeure. » Et quel profane peut habiter cette retraite sacrée ? Le jardinier, mademoiselle, celui qui cultive toutes ces belles roses dont nous respirons en ce moment les parfums. « Oh, ce que je voudrais visiter cette chapelle !» s'écria Carmélite. « Oh, rien n'est plus facile. Comment faire ? Il suffit de demander la permission au jardinier. Mais s'il me la refuse ? S'il refuse de vous laisser voir le tombeau, vous lui demanderez à voir ses roses, et par amour pour ses roses, il vous permettra de voir le tombeau. Alors, ses roses sont à lui ? Il en est le possesseur privilégié. Et que peut-il faire de tant de roses ? Mais, dit le jeune Breton, il les vend. « Oh, le méchant homme, » dit Carmélite avec un reproche tout enfantin, « ventre ces belles roses, moi qui croyais qu'il les cultivait par religion, ou tout au moins pour son plaisir. » Il les vend, et tenez, regardez d'ici sur ma fenêtre, vous verrez 3 rosiers qu'il m'a vendus ces jours-ci. Carmélite se pencha de côté, et ses beaux cheveux flottants effleurèrent le visage du jeune homme qui sentit passer un frisson par tout son corps. Elle, en même temps, sentit le souffle de Colomban passer dans ses cheveux, car, se reculant vivement et tout rougissant, « Oh, dit-elle, imprudemment, combien je voudrais avoir un des rosiers qui entoure cette chapelle. Me permettrez-vous de vous offrir un des miens ?» se hâta de dire Colomban. « Oh, merci, monsieur, » répondit Carmélite, s'apercevant de son étourderie. « J'en voudrais un, mais tiré par mes mains de cette terre où sœur Louise de la Miséricorde a vécu, et où son corps a reposé, et repose même peut-être encore maintenant. Que n'y allez-vous dès demain matin ? Je n'oserais jamais y aller toute seule. Je vous offre mon bras, si vous voulez l'accepter. » La jeune fille demeura un instant embarrassée, puis enfin, faisant un effort, « Écoutez, monsieur Colomban, » dit-elle, « j'ai une profonde estime et une grande reconnaissance pour vous, mais si je sortais à votre bras en plein jour, toutes les commères du quartier seraient scandalisées d'une pareille inconvenance. Allons-y le soir. Est-ce qu'on peut y aller le soir ? Pourquoi pas ? C'est qu'il me semble que le jardinier doit se coucher en même temps que ses fleurs pour se lever en même temps qu'elles. Je ne sais pas à quelle heure il se couche, mais ce que je sais, c'est qu'il se lève bien avant elle. Comment savez-vous cela ? Quelquefois, la nuit, quand je ne dors pas, la voix de Colomban trembla légèrement en prononçant ces mots,
Je me mets à la fenêtre et je l'aperçois, trottant dans son jardin, une lanterne à la main. « Et tenez, mademoiselle, ce feu follet qui court à travers les roses, n'est-ce pas lui ?»« Où court-il ainsi ?» demanda la jeune fille. « Après quelque chat, probablement. » « Mais s'il se lève, dit Carmélite en souriant, bien qu'il soit de bonne heure pour lui, il doit être fort tard pour nous. »« Tard, dit Colomban. Oui, quelle heure peut-il être ?»« 2 heures à peu près, fit Colomban, avec une certaine hésitation. « Oh, jamais je ne me suis couché si tard !» s'écria la jeune fille, levant les mains au ciel. « 2 heures du matin, mon Dieu ! Oh, bien vite, bonsoir, monsieur Colomban. Je vous remercie des heures instructives que vous m'avez fait passer. Et un soir, ajouta-t-elle plus bas, un soir que tous les voisins seront couchés, je vous demanderai votre bras pour aller déterrer un rosier. » « Nous ne trouverons jamais une nuit plus belle que celle-ci, mademoiselle, » dit le jeune homme, qui s'efforça de ne pas trembler en parlant. « Oh, si je croyais n'être pas vue, » dit franchement et ingénument la jeune fille, « j'irai tout de suite. »« Par qui voulez-vous être vue à cette heure ?»« Mais par la portière d'abord. »« Non, j'ai un moyen d'ouvrir la porte sans l'éveiller. »« Comment vous allez crocheter la porte ?»« Oh non, mademoiselle, je vais l'ouvrir avec une clé que j'ai fait faire. » Je rentrais quelquefois du cabinet de lecture à minuit passé, et comme la portière est infirme, je me suis fait un scrupule de la réveiller. « Ah, eh bien, s'il en est ainsi, dit la jeune fille, allons-y tout de suite. Aussi bien, je crois que j'aurai beau me coucher, je ne dormirai pas en pensant à mon rosier. » « Était-ce bien votre rosier, Carmélite, qui vous eût empêché de dormir ?»« Non, mais vous le croyez, pauvre enfant, vierge innocente, et c'était votre innocence même qui vous poussait à cette escapade nocturne au bras de ce jeune homme aussi innocent que vous. » Carmélite se coiffa d'un petit bonnet et jeta un fichu sur ses épaules. Le jeune homme prit son chapeau et tous deux descendirent à petits pas l'escalier. Ils allaient bien doucement, et cependant ils firent encore assez de bruit pour réveiller les oiseaux qui dormaient dans les lilas, et qui, en les entendant passer et en voyant cette belle lune, se mirent à chanter, soit qu'ils crussent à l'aurore, soit qu'ils voulussent faire leur partie dans cette fête de nuit que le printemps et la nature donnaient aux deux jeunes gens. Après avoir franchi la rue Saint-Jacques et la rue de Val-de-Grâce, ils arrivèrent rue d'Enfer, en face de cette grande porte de bois à claire-voie qui sert d'entrée à l'ancien jardin des Carmélites. Ils sonnèrent. Il était de bien bonne heure ou bien tard pour sonner. Aussi le jardinier hésita-t-il un instant. Mais au second appel de la clochette, on vit l'homme et la lanterne se mouvoir. Tous deux s'approchèrent, la lanterne s'éleva à la hauteur du visage des deux visiteurs, et le jardinier reconnut le jeune homme qu'il voyait tous les jours à sa fenêtre, et dont il écoutait parfois, étendu au milieu de ses rosiers, la voix vibrante accompagnée des sons du piano. Le jardinier ouvrit la porte et introduisit cet autre Adam et cette nouvelle Ève dans son paradis. C'était, comme nous l'avons dit, une immense pépinière où l'on ne cultivait que des roses. Rien ne peut exprimer la sensation de douceur charmante et de frais enivrement qui saisit les deux jeunes gens lorsqu'ils pénétrèrent dans ce harem de roses dont le sultan, une lanterne à la main, disait les noms harmonieux qui retentissaient à leurs oreilles comme des notes échappées aux chansons des oiseaux. On eût dit la mélodie du bulbule, ce rossignol d'Orient qui a le secret des fleurs et qui, pareil au roseau du roi Midas, divulgue ce secret à la brise de l'Est. En marchant ainsi, appuyés au bras l'un de l'autre et écoutant la nomenclature des roses, ils arrivèrent devant le tombeau ou la chapelle de sœur Louise de la Miséricorde. Carmélite hésitait à entrer. Sur l'invitation de Colomban, elle se décida. Mais presque aussitôt, elle sortit avec une sorte d'effroi en voyant, accolée ou suspendue aux parois de la muraille, au lieu des emblèmes religieux qu'elle s'attendait à trouver là, des pelles, des bêches, des râteaux, des arrosoirs, des brouettes et tous les instruments de jardinage dont le pépiniériste se servait. La jeune fille fit alors curieusement le tour du petit tombeau. Des rosiers de 6 ou 8 pieds de hauteur l'entouraient uniformément. « Quels sont ces magnifiques rosiers ?» demanda Carmélite. « Ce sont des rosiers d'Alexandrie à fleurs blanches, » répondit le jardinier. Ils viennent du midi de l'Europe ou des côtes de la Barbarie. C'est avec leurs fleurs que l'on fait l'essence des roses. « Voulez-vous m'en vendre un ? » demanda la jeune fille. « Lequel ? » dit le jardinier. « Celui-ci. » Et Carmélite montra celui qui adhérait le plus intimement au tombeau. Le jardinier entra dans la chapelle et prit une bêche. Un rossignol chantait à 20 pas de sa plus amoureuse chanson. La lune n'était plus la lune, c'était la Phébé des Grecs. Regardant amoureusement sur la terre si elle ne reverrait pas l'ombre d'Endymion. La brise de la nuit, si douce qu'elle semblait un baiser donné à la bouche de la nature, passait dans les cheveux des jeunes gens. C'était vraiment une scène pleine de couleurs et de poésie que cette grande jeune fille en habit de deuil, ce blond jeune homme vêtu de noir, et ce jardinier qui creusait la terre à cette heure de la nuit par cette brise fraîche à la clarté de la lune au chant du rossignol. Aussi, chacune de leurs haleines semblait-elle dire « Oh, la bonne chose que la vie, merci Seigneur de nous l'avoir donnée en même temps. » Hélas, le premier coup de bêche donné par le jardinier retentit douloureusement dans le cœur des jeunes gens. Il leur semblait que remuer cette terre dans laquelle reposait le corps de la sainte maîtresse de ce royal égoïste que l'on appelait Louis XIV, c'était commettre quelque chose comme un sacrilège. Ils sortirent de la pépinière en portant leur rosier, mais avec une crainte pareille à celle des enfants qui ont cueilli une fleur dans un cimetière. Une fois hors du jardin, ils oublièrent ces pensées funèbres, et en jetant un dernier regard à la pépinière, qui n'en voyait plus qu'une espèce de nuage de parfum, et regardant les étoiles, en absorbant, pour ainsi dire, toutes les émanations de la vie qui s'élevait autour d'eux, ils remercièrent la Providence de tous les bienfaits dont elle les avait comblés pendant cette ineffable nuit de printemps.